Jean chapitre 10, versets 1 à 21. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous ? » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ce passage, il est, vous l'avez compris, lié à la guérison de l'aveugle né du chapitre 9. Et le discours de Jésus provoque à nouveau la controverse, comme on vient de lire dans les versets 19 à 21. Et dans le chapitre 9, l'aveugle, lui, guéri, il voit de mieux en mieux qui est la personne de Jésus. Alors que les pharisiens, qui sont eux témoins de ce miracle, ils semblent devenir de plus en plus aveugles au fur et à mesure qu'ils endurcissent leur cœur à la personne de Jésus. L'aveugle, lui, il va jusqu'à croire et puis adorer le Seigneur. Vous avez certainement entendu des personnes dire ne plus croire en Dieu ou ne plus vouloir entendre parler de lui en raison des mauvais bergers qui dirigeaient l'Église. Les scandales des prêtres pédophiles, les abus de pouvoir de certains pasteurs, les dirigeants les plus intéressés par l'argent et leur propre gloire que par les âmes et la gloire de Dieu. Et puis tout dominateur qui exploite la jeunesse, l'ignorance, la fragilité des hommes pour leur profit. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à reconnaître et puis à suivre Jésus, le bon berger. Cette image du berger est connue des chefs religieux de l'époque, puisque eux, ils se souviennent de ce texte de Ézéchiel 34 que l'on a lu. À cette époque, déjà, le Seigneur avait dénoncé l'attitude des chefs qui s'étaient servis du peuple pour leur gloire, pour leur enrichissement personnel, et qui n'ont pas pris soin des brebis de l'Éternel, et qui n'ont pas pris soin pour les faire paître. Loin de les protéger, ils les ont abusés, et puis loin de les garder, ils les ont dispersés. Et elles sont maintenant en proie à tous les dangers. Alors, à ce moment-là, le Seigneur dit en Ézéchiel 34, « Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Moi-même, je les recueillerai, je les retirerai, je les rassemblerai, je les ramènerai, je les ferai paître. C'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même qui va prendre soin de son troupeau. Et ici, dans ce passage, Jésus dit, je suis le bon berger. Et pour tous les pharisiens qui l'écoutent, il est impossible qu'ils ne pensent pas à ce texte d'Ézéchiel 34. Ils comprennent que Jésus est en train de dire « Je suis l'Éternel qui prendrait soin moi-même de mes brebis. » C'est lui-même qui peut prendre soin des brebis de son troupeau. Il va parler d'un seul berger. Il dit « Ce seul berger, c'est David. » Mais en Ézéchiel, quand Ézéchiel prophétise, David est déjà mort depuis plus de 400 ans. De quel David parle-t-il ? Il parle du fils de David, de Jésus, le fils de David, le Messie, celui qui est le berger pour toujours. Et le but du bon berger, c'est de se former un troupeau. On va voir ce matin la formation du troupeau, on verra la destination du troupeau, l'acquisition du troupeau et la réunion du troupeau. Regardons la formation du troupeau à l'époque. Dans les versets 1 à 6, on voit qu'à l'époque, chaque village des régions où il y avait des pâturages en Palestine, il y avait une bergerie qui a été construite et les différents bergers rassemblaient leurs brebis dans la même bergerie et ils plaçaient un portier devant cette bergerie. Et pendant la nuit, le portier gardait toutes les brebis du troupeau, ne laissait entrer personne. Seuls les bergers pouvaient venir chercher leurs brebis. Ils les prenaient et les appelaient, et chacun appelait ses brebis le matin, et il les conduisait dans les pâturages. Et ici, Jésus est le vrai berger des brebis d'Israël. Et il appelle ses brebis, une à une, par leur nom. Par leur nom. Jésus, il vient d'appeler un aveugle de naissance. Il a entendu sa voix et il l'a suivi. Et aujourd'hui encore, Dieu, il appelle. Dieu rassemble son troupeau en appelant des hommes et des femmes par leur nom. C'est-à-dire qu'il s'adresse directement à elles, parlant à leur cœur, révélant à leur cœur la vérité. Vous savez, il ne nous dit pas toujours des choses plaisantes à entendre, mais il nous dit toujours ce que l'on a besoin d'entendre. Jésus, par exemple, dans le chapitre 8, verset 32, il avait dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres ». Si on a besoin d'être libéré, c'est qu'on est esclave. Et le ministère du Seigneur, c'est de libérer et d'affranchir les esclaves. Vous entendrez peut-être Jésus vous parler ce matin. Il le fera à votre cœur, directement. Et puis le bon berger, il marche devant son troupeau. C'est-à-dire que Jésus, il ne vous conduira jamais dans une voie qu'il n'a pas lui-même connue. Il connaît ce que vous ressentez. Parfois, le chemin par lequel il nous mène, il est difficile. Parfois, le sentier, il est étroit, il est périlleux. Mais Jésus marche devant vous. Il comprend vos craintes. Il comprend vos hésitations. Parfois, il faut renoncer à sa position. Jésus a renoncé à toute sa gloire. Parfois, il faut apprendre à perdre même ce que l'on aime. Jésus a été abandonné de tous ses amis. Parfois, il faut être traité injustement. Jésus l'a été plus qu'aucun de nous. Alors, il comprend. Il comprend tout ce que vous vivez. Mais ce qui nous rassure, c'est sa voix. Sa voix, elle se fait entendre à nos cœurs. Elle dit, allez, avance, n'aie pas peur, crois seulement. De l'autre côté, il y a de verts pâturages. De l'autre côté, il y a des eaux paisibles. Jésus ne vous trompera pas. Les hommes l'ont fait, mais Jésus ne vous trompera pas. Et puis, pourquoi est-ce qu'il forme ce troupeau, au fond ? C'est qu'il veut nous conduire à une destination. Et dans les versets 7 à 10, il explique cette destination, c'est la vie éternelle et la vie abondante. Toute notre existence ne se passe pas ici seulement. En fait, c'est seulement une infime partie de notre existence que nous passons ici-bas. La plus grande partie, l'essentiel de notre vie, c'est pour l'éternité. Et ici-bas, nous préparons notre éternité. Ici, et Jésus, il ajoute encore une métaphore, une image, et il dit « Je suis la porte, je suis la porte des brebis ». Et il ajoute au verset 9 « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». Sauvé ! Dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre, il dit « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom » par lequel nous puissions être sauvés que celui de Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas une église, ce n'est pas par nos bonnes œuvres, mais c'est par Jésus et Jésus seul. Le seul qui puisse nous délivrer du péché et de l'enfer. Le seul qui puisse véritablement combler nos cœurs. Et son but, en formant son troupeau, c'est de nous donner la vie. Et le mot qui est employé ici, c'est Zoé en grec. Zoé, c'est la vie éternelle. Il y en a plusieurs des Zoé au milieu de nous. C'est la vie éternelle. Cette vie sur laquelle même la mort n'a pas de pouvoir. Cette vie qui répond à l'aspiration la plus profonde de nos cœurs. Cette vie à laquelle nous aspirons. Nous ne la vivrons vraiment que lorsque la question de notre éternité est réglée. Tant que l'angoisse de l'éternité, tant que la question du jugement de nos péchés, de nos fautes, n'est pas réglée, on ne peut pas vivre paisiblement ici-bas. C'est lorsqu'on a compris que Jésus-Christ avait payé, que l'on peut régler cette question. Et puis il ajoute qu'elles aient la vie en abondance. En abondance. C'est l'expression qui fait écho au vert pâturage du verset 9 ou du psaume 23. Dieu ne nous fait pas survivre, mais il nous fait vivre abondamment, intensément. C'est le contraire d'être vide. Il ne dit pas « je vais vous donner une vie facile » ou « une vie spectaculaire », non. Il dit « je vais vous donner une vie abondante ». Une vie avec du sens. Une vie avec une utilité. Une vie qui réponde à ce pourquoi elle a été créée. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour vivre à la gloire de Dieu. Et tant qu'on ne vit pas à la gloire de Dieu, notre vie est vide, elle n'a pas de sens. Dans quelques jours, la France va accueillir Nick Vujicic, cet homme qui est né sans bras et sans jambes. Et jusqu'à l'âge de 15 ans, il était dans une grande détresse, au point de vouloir se noyer plusieurs fois dans son bain, tellement il était désespéré. Et sa grande question, c'était « Pourquoi Dieu, tu as permis que je naisse comme ça ? Pourquoi est-ce que tu permets une telle souffrance pour moi, pour ma famille, pour mes parents ?» Jusqu'au jour où il a entendu au travers du chapitre précédent de l'évangile de Jean, chapitre 9, la réponse de Jésus. Parce que c'est ainsi que tu vas me glorifier. Parce que c'est ainsi que tu vas me glorifier. Et dans l'éternité, je te donnerai des bras et des jambes. Il a compris que Dieu lui avait donné un handicap sur mesure. C'est l'expression qu'il emploie. Un handicap sur mesure. Dieu m'a fait exactement tel que je suis pour pouvoir vivre devant sa face et glorifier son nom. Aujourd'hui, il s'est marié, il a 2 enfants et il sillonne le monde et encourage des milliers de personnes, révèle l'œuvre de Dieu et annonce la vie abondante en Jésus-Christ. La vie abondante, elle provient d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. L'acquisition de ce troupeau, dans les versets 11 à 21, Jésus va expliquer comment est-ce qu'il a pu s'acquérir ce troupeau, lui le bon berger. La tâche d'un berger, c'est pas simple. Les brebis sont sujets à la maladie, aux parasites. Elles sont particulièrement appréciées et recherchées par les loups, les lions, les ours. Des dangers à nous aussi nous menacent. Le péché, la morsure du péché, nous a atteints. On a été, le venin a été inoculé et il pénètre tout notre corps. Et toute notre vie, elle est impactée par le péché et même les relations les meilleures sont affectées par le péché. Le diable, il est notre adversaire, comme un lion qui rugit, qui cherche qui va dévorer. Il est le tentateur qui cherche à nuire, blesser, éloigner du Créateur, toute créature de Dieu. Et puis la mort, notre dernière ennemie, elle semble triompher même des plus robustes d'entre nous. Elle plane au-dessus de nous, elle frappe tantôt ici, tantôt là. Être berger, c'est être prêt à risquer sa vie pour ses brebis. Mais maintenant, imaginez la scène. Vous êtes un berger. Vous avez des brebis. Et là, vous voyez un loup qui arrive. Il bave. Et puis, il s'approche. Vous le voyez, vous tapez avec votre bâton à terre. Et vous jetez des cailloux. Il vous calcule pas. Continuez à avancer vers les brebis. Continuez avec vos cailloux, puis vous le touchez. À ce moment-là, il grogne et il change un peu sa direction et vient vers vous. Là, vous dites après tout, ce loup aussi, il a le droit de manger. Vous lui trouvez des excuses et puis vous réfléchissez. Vous dites, mais s'il me mange moi, après, les brebis n'auront plus de berger. Et on comprend que être berger, c'est risquer sa vie, mais pas forcément la donner. Jésus, lui, le bon berger, il donne sa vie. Pour ses brebis. Il se livre tout entier pour ses brebis. Et face à nos ennemis, le péché, il l'a vaincu. Il l'a pris sur lui. Et il a reçu la peine, la condamnation que supportait le péché, notre péché. De sorte que le péché ne peut plus nous affecter. Il ne peut plus nous être imputé. S'il l'a été sur Christ, il ne peut plus être imputé sur nous. Nous pouvons vivre libres de toute culpabilité. Le diable, qui cherchait à nous dévorer, qui nous tenait dans ses griffes, il a été vaincu. La Bible dit que Jésus a triomphé du diable par sa mort de la croix. Le diable est un ennemi vaincu. C'est Jésus qui règne. Et puis, la mort qui nous angoissait a été vaincue également. 3 jours après sa mort, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. La mort a été vaincue. De sorte que si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, le jour où notre cœur s'arrête de battre, nous continuons à vivre dans l'éternité. La Bible dit, si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. La mort a été vaincue. Et puis, il ajoute, dans les versets 17 et 18, qu'il donne sa vie, non pas d'une manière accidentelle, mais d'une façon volontaire. C'était le plan de Dieu. Jésus n'est pas mort sur une croix par un mauvais coup du sort, à cause de la méchanceté des hommes, du moment. Non, personne ne lui ôte la vie, mais il la donne de lui-même. Il dit, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et ça, c'est très fort. Parce que quelqu'un peut dire la même chose, peut dire, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Oui, tout le monde ici a le pouvoir de donner sa vie. Mais qui a le pouvoir de la reprendre? Seul celui qui est la vie lui-même, c'est-à-dire l'Éternel, Jésus-Christ, seul a cette capacité. Et il a annoncé, je vais ressusciter d'entre les morts, et il l'a fait. Je voudrais revenir et focaliser notre attention pour finir sur ce dernier point, la réunion du troupeau. Je trouve ça extraordinaire. Verset 16. Il dit ici, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Les autres brebis, qui sait, sont les autres, ce sont ceux qui ne sont pas de la bergerie d'Israël. Ce sont les ressortissants des nations. Et Jésus, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène et elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Est-ce que vous pouvez imaginer la puissance de cette promesse ici? Jésus, il dit qu'il a. Il a d'autres brebis dans une autre bergerie parmi les nations. Il les a déjà. Avant même qu'elles ne répondent à son appel, elles sont à lui. Voyez-vous la puissance de ces mots et l'encouragement que ça représente pour un missionnaire? Elles sont déjà à lui avant même qu'il ne les appelle, avant même qu'elles n'entendent sa voix et y répondent. Jésus, il dit au chapitre 6, verset 37, écoutez ça. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et puis au chapitre 17, dans sa prière, au verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ça, c'est l'élection sur laquelle va parler l'apôtre Paul. Et Jésus dit déjà, j'ai des brebis. C'est merveilleux, vous pouvez partir en mission parce que Jésus a d'autres brebis, et il va les appeler. C'est fantastique. Dans l'apôtre Paul, quand il est allé à Corinthe, il a été persécuté. Alors, il était troublé. Dans son trouble, il a été visité par le Seigneur qui lui a dit, « Parle et ne te tais point. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » C'est fantastique. Il a parlé et l'église de Corinthe est née. Ça veut dire qu'on peut partir en mission. Il faut qu'il les amène. Il faut, c'est tellement fort. Il faut qu'il les amène. Et comment est-ce qu'il le fait? Eh bien, il les appelle. Et pour les appeler, il utilise sa parole. Hein, au verset 3, on a lu tout à l'heure qu'il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit. Elles aussi entendent sa voix, c'est-à-dire son appel. Et comment elles attendent, elles vont entendre son appel ? Eh bien, par vous. Jésus a dit, hein, Jean chapitre 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Dieu, il nous envoie dans ce monde. Il nous envoie avec sa parole. Et nous, on fait connaître la parole au monde. Et le monde entend la parole de Jésus. Il y croit et il le suit. Les brebis qui suivent Jésus, les brebis, elles suivent Jésus. Si elles ne suivent pas Christ, c'est qu'elles ne sont pas de son troupeau. Hein, d'ailleurs, dans le chapitre 10, là, verset 6, il est dit que Jésus leur dit cette parabole ou ce discours, cette figure, cette image, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Pourquoi ils ne comprirent pas ? Verset 26, il est dit, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Les brebis qui ne suivent pas, les brebis qui n'écoutent pas, c'est parce qu'elles ne sont pas du troupeau du Seigneur. Et puis là, il termine en disant, « Et il y aura un seul troupeau. » Un seul berger. Il y aura. Ça veut dire, c'est certain. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est déjà écrit. Et dans le ciel, nous serons réunis à tout jamais avec des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, comme le dit Apocalypse chapitre 5, verset 9. Ça signifie que ça vaut le coup de partir en mission, d'annoncer le salut en Jésus-Christ à toutes les nations, parce qu'il y a des brebis parmi toutes les tribus, les langues, les nations, les peuples, et il faut aussi qu'il les conduise dans sa glorieuse présence, et elles entendront sa voix, et elles le suivront. Nous démarrons ce travail auprès des femmes prostituées. Dieu va appeler par leur nom de ces femmes. Et comme nous, par la foi en Jésus-Christ, elles vont être pardonnées de leurs péchés. Elles vont être justifiées par le sang de Christ. Et puis elles vont être transformées à la ressemblance de Jésus-Christ. Et il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul berger. Vous savez, pour les Juifs, une telle chose, et c'est ça qui les a mis en colère. Quoi ? Un seul troupeau et un seul berger ? Nous, les Juifs, avec des gens qui sont pas juifs. Tu as vu ça où ? Jésus dit, il y aura un seul troupeau. Les Juifs méprisaient les païens. Et les païens leur rendaient bien. Et ni les juifs, ni les païens n'auraient voulu former un seul troupeau. Et vous savez pourquoi on ne veut pas former un seul troupeau avec tous les hommes ? Parce qu'on croit qu'on n'est pas sauvé par la grâce seulement. Quand on pense qu'on est sauvé par nos œuvres, parce qu'on est quelqu'un de bien, alors on ne veut pas faire partie du troupeau avec des gens qui ne sont pas aussi bien que nous. Mais l'instant où on comprend le message de l'Évangile, qu'on n'est pas racheté à cause de nos mérites, mais simplement à cause de l'œuvre de Jésus-Christ et de l'amour de Jésus-Christ pour nous. L'instant où on comprend cela, qu'aucune de nos œuvres, aucun de nos mérites, aucune de nos actions, rien de nous ne peut nous obtenir le ciel, alors on est capable d'accueillir n'importe quel pécheur et former avec eux un seul troupeau et suivre un seul berger, celui-là même qui nous a aimés et qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Ça, c'est le projet de Dieu. C'est merveilleux. Et pour l'éternité, ce berger sera célébré. Et glorifié par nous tous, formant un seul troupeau, suivant le même berger. Prions.